Des mâles tes racines. Des mâles tes racines.
Mon gosse, là. T'as de cause, là, grand-père. Oui, mon t'as de cause, j'ai pas connu beaucoup.
Que transmet-on ? À qui ? De quelle manière ? Quel est le terreau de nos racines ? Qu'est-ce qui nous unit les uns aux autres ? Une voix, une attitude, une posture, écrite à l'encre indélébile au plus profond de nous-mêmes. Rencontre enrichissante, enivrante ou déplorable, quelles empreintes gravent-elles au creux de nous ? Comment de simples échanges nous façonnent à jamais ? Transmission, ou le passage de l'un, l'une à l'autre. Bonjour, c'est MG, alias Mamgous. Pour le troisième épisode de Démêle tes racines, nous partons près de Lyon, où je me suis rendue l'année dernière pour participer à un stage de violoncelle pour un événement autour de l'orchestre. Merci aux organisateurs de ce beau projet, ainsi qu'aux intervenants de m'avoir permis de réaliser mes interviews en terrain inconnu, improvisé qui plus est. Passer le chapitre des émotions, une occasion rêvée de plonger au cœur de la transmission. Les mois ont passé, et pourtant, le propos a quelque chose d'intemporel.
Catherine Mathieu, je suis violoncelliste. Présentement, on se trouve donc à Ressin. C'est pour un stage, donc un week-end en fait entre musiciens amateurs avec violonistes et violoncellistes. En fait, que j'ai organisé avec un collègue violoniste qui est Jean-François McDonald. Puis voilà, donc on est parti à l'aventure en France avec une cinquantaine de musiciens de partout dans le monde, donc du Québec, la France, l'île de la Réunion, la Belgique. Et c'est fantastique. Comme beaucoup d'artistes, en fait, durant la pandémie, je me suis ramassée vraiment avec absolument rien. Là. J'avais plus aucun engagement, plus d'élèves. Finalement, je donnais des conférences, j'avais plus de conférences. Je faisais de la rédaction pour des orchestres. Plus de rédaction non plus, donc j'étais à la maison. Je suis pas le genre de personne qui reste inactive trop longtemps. J'ai besoin d'avoir des projets. J'ai envoyé, en fait, des vidéos avec des astuces, des trucs pour mes élèves. Puis, à force d'en faire, je me suis dit, pourquoi que je pourrais pas aider d'autres personnes avec ça. Donc, le projet est vraiment né comme ça, avec des petites vidéos que j'envoyais. Au départ, c'était vraiment pour garder un lien avec les élèves puis les motiver aussi à continuer à jouer. Puis finalement, ça a pris de l'ampleur. Je me suis dit, pourquoi pas structurer tout ça avec mon expérience, mes connaissances. Puis voilà, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur depuis, je dirais. Maintenant, c'est une plateforme où on retrouve autant la formation sur apprendre à jouer du violoncelle, mais il y a aussi des invités qui viennent parler de différents sujets en lien avec le violoncelle. Il y a toute une boîte à outils aussi que j'ai créée en lien avec ça, des documents, des guides. Maintenant, donc, des gens de partout aussi dans le monde peuvent accéder à ça, donc peuvent apprendre de leur foyer vraiment à leur propre rythme, des gens de tous les âges, beaucoup d'adultes qui apprennent à jouer du violoncelle maintenant grâce à cette plateforme-là. Puis voilà, je suis bien fière de ce projet.
Pour avoir et donc été sur cette plateforme et être membre, la première chose qui est assez marquante, je trouve, c'est le fait que ce soit accessible au niveau très débutant. En termes de pédagogie, tu as eu quelqu'un qui t'a marqué dans ta vie, en particulier une rencontre qui t'aurait amené à aborder l'enseignement de cette manière-là?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire dès le début de mon apprentissage, qui s'appelle Christina Melnik. C'est une Ukrainienne d'origine, mais qui est canadienne. Et dès le début, je me souviens d'avoir été comme captivée par le violoncelle, mais beaucoup grâce à elle, parce qu'elle avait une façon d'être, un enthousiasme, toujours des trucs vraiment très ludiques aussi pour apprendre, tout ça. Une grande, grande humanité, une bienveillance envers ses élèves, cette capacité d'aller chercher l'unicité de chacun, en fait. Peu importe, dans le fond, au niveau du violoncelle ou non, c'était pas important pour elle, en fond, c'était d'aller chercher le beau dans chaque personne, puis bon, évidemment, grâce au violoncelle, mais on voyait que c'était pas une question de performance, ou c'était vraiment d'aller, de permettre en fait à la personne de s'épanouir à travers cet instrument-là. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec elle, en fond, je l'ai eu pendant 10 ans comme professeur, de l'âge de 9 ans à 19 ans. Vraiment des années vraiment importantes dans la vie où on construit un peu une identité, là, l'adolescence, tout ça. Puis après ça, à l'université, j'ai eu un autre professeur aussi qui était extraordinaire, qui s'appelait Thérèse Motard, qui est une franco-ontarienne. Puis une personne tout à fait différente, au sens c'est une personne très, très affirmée, très directe aussi, mais aussi avec la bienveillance puis beaucoup d'humour aussi. Donc, j'ai eu vraiment cette chance-là parce que je sais que certains de mes collègues qui ont eu des professeurs un peu plus tyranniques, on peut dire comme ça.
Idéalement, il faut écouter ce qu'on fait quand on fait l'exercice. Ça se fait encore pas que c'est stable, puis c'est régulier comme ça. Souvent, je vais parler d'une abeille. Ouais. Une abeille, quand ça va, on ne veut pas d'abeille qui est sourde, qui est trop de miel. Complètement bourré. Et donc, une abeille bien saine. toujours au même. Mais on peut avoir plusieurs types d'abeilles. On peut avoir petites abeilles, des abeilles qui font vraiment plus vite. L'abeille,
même le gros bonhomme peut venir.
Mais ils volent toujours à la même vitesse, au même rythme. Okay? C'est ça qui est plus important. Parce qu'un vibrato, c'est pas vrai que c'est juste une vitesse. On doit apprendre sur un concept. On va apprendre plein de sortes de vitesses de vibrato. Des œuvres romantiques dans une même longue note où on. Avec un gros crescendo, par exemple, on va commencer avec un vibrato qui est moyen, qui va être plus en plus intense. Mais ça, c'est vraiment de la piédité. Mais par ça, il faut être capable de contrôler le vibrato dans toutes les circonstances. Donc, ce que ça donne, l'exercice qu'on vient de faire, si je le faisais
Je raconte cette histoire, c'est je dis souvent que le violoncelle m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi le violoncelle. Donc moi, j'avais pas d'une famille de musiciens. Bon, mes parents écoutaient de la musique, mais c'est pas dans la culture familiale de jouer d'un instrument. Puis j'ai suivi des cours de piano à l'âge de 7 ans, mais j'avais détesté mes cours de piano. Vraiment, c'est pourtant j'aimais la musique. Là, ma mère dit que j'écoutais de la musique tout petite, puis j'étais captivée par ça. Donc c'est ça, j'ai été sélectionnée pour aller dans une école spéciale où il y avait un programme musical à l'école primaire. Puis la moitié de la journée, donc, c'était la musique, puis l'autre moitié, c'était les autres matières. Puis au moment d'audition, donc, on m'a demandé « Est-ce que tu préfères jouer du violoncelle ou du violon? » Puis on nous faisait essayer les deux instruments. Puis moi, j'avais jamais vu un violoncelle, honnêtement, je savais même pas c'est quoi. Puis on m'a fait essayer le violoncelle, puis j'ai dit « Ah, c'est gros, je veux pas jouer de cet instrument-là, moi je veux jouer du violon. » Donc j'avais dit « Je veux jouer du violon. » Puis ma sœur aussi avait été à la même audition. Puis elle avait dit « Ah, moi, je joue du violoncelle, ça a l'air trop cool, ce gros instrument. » Bon, tout ça. Puis finalement, on a reçu les lettres disant « Bon, vous êtes acceptée à ce programme, mais moi, c'est en violoncelle et ma sœur en violon. » Toutes les deux, on était déçus. « Ah non! » Puis là, je me souviens de la première journée avec mon gros violoncelle dans l'autobus scolaire, me disant « Ah non, je suis prise avec ça. » Vraiment. Puis d'arriver à l'école, puis il y avait cette professeure, Christina, qui était là. Puis dès les premiers jours, là, il s'est passé quelque chose comme un coup de foudre, là, vraiment, avec l'instrument, la vibration. Cette professeure si enthousiaste et passionnée, puis voilà. Mais c'est tellement important, le lien qu'on a avec le professeur. En fait, c'est le premier contact qu'on a avec l'instrument aussi. Parce qu'on peut avoir un coup de foot puis se dire « Ah, ben finalement, ah non, c'était juste un rêve. » Puis quelqu'un m'a dit que j'étais pas capable de le faire ou c'était trop difficile, peu importe. Puis là, on va arrêter là, à ce moment-là. Mais c'est tellement dommage parce que, dans le fond, chaque personne a cette capacité en elle-même d'aller chercher les connaissances avec la pratique et tout ça. Il faut juste être bien guidé puis avoir cette petite graine qu'on a semée dans la personne qui fait que par elle-même, elle va aller chercher les bons outils, elle va se motiver, elle va poser des questions, elle va être curieuse, tout ça. Mais il faut d'abord semer quelque chose chez la personne. Puis si dès le départ, on l'empêche, on la freine, en fait, avec des remarques désobligeantes ou juste des trucs qui sont complètement faux. Par exemple, de dire qu'un adulte ne peut pas apprendre à jouer du violoncelle, c'est complètement faux. Tout le monde est capable d'apprendre à jouer du violoncelle. à son propre rythme. Elle n'atteindra pas nécessairement le même niveau que tout le monde, mais c'est pas grave, au fond. C'est même totalement secondaire. C'est pas le but de l'exercice. Le but, c'est vraiment de presque de se découvrir à travers cet apprentissage-là. Puis surtout, c'est les adultes, mais même les enfants, mais c'est peut-être moins conscient chez eux. Mais chez l'adulte, le fait de se lancer dans l'aventure, de repousser ses limites, sortir de sa zone de confort, ça soulève un tas de questions. Moi, je le vois avec les adultes. C'est pas juste le fait d'apprendre à mettre un doigt sur une corde ou jouer avec un archer. C'est vraiment la confiance en soi, cette vulnérabilité, en fait, qu'il y a aussi dans l'apprentissage d'un instrument à l'âge adulte. C'est tout ça aussi. Puis ça, c'est riche, là. C'est vraiment une expérience qui peut amener à la personne à un autre niveau dans sa vie. Ben, la première chose, c'est de savoir pourquoi la personne est là. Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans l'apprentissage du violoncelle? Est-ce que c'est elle a entendu le violoncelle à un concert récemment, puis c'est ça qui a fait le déclic? Est-ce que c'est un vieux rêve? Des gens qui me disent « Moi, ça fait 35 ans que je veux jouer du violoncelle, puis j'ai jamais osé. » Donc, la personne n'arrive pas avec le même genre d'attente ou d'espoir que quelqu'un qui a découvert le violoncelle la semaine dernière. Là, c'est pas pareil. Y a des gens qui me disent « Ben moi, c'est vraiment le fait de pouvoir jouer avec mes enfants. J'ai un fils ou une fille qui commence à jouer du violon. Je veux qu'on puisse faire des duos. C'est vraiment mon objectif. » D'autres, c'est « Je veux rejoindre un ensemble. J'ai toujours rêvé de jouer en groupe. » Donc, tout dépendant de l'objectif de chacun, mais c'est sûr qu'on va orienter aussi un peu l'apprentissage de façon différente. Parce qu'il faut trouver la motivation profonde de chacun aussi. On ne peut pas non plus appliquer une recette toute faite à chaque personne. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes choses à apprendre, là, peu importe, c'est la même technique, c'est la même chose. Mais la façon de motiver la personne va être différente d'une personne à l'autre. Et comme adulte, c'est très important de savoir le grand pourquoi de l'apprentissage du violoncelle. Puis, on trouve ça trop difficile, ça, mais il faut revenir à ça, puis se dire, mais pourquoi moi je veux apprendre à jouer du violoncelle? C'est quoi mon grand, grand but? Puis en revenant à ça, souvent, ça nous donne le petit coup de pied pour poursuivre, puis se motiver, avancer davantage.
Tu enseignes uniquement à des adultes?
Présentement, oui. Ouais, depuis, je dirais, peut-être 5 ans, j'ai vraiment... uniquement des adultes, mais ça fait au moins 20 ans que j'ai au moins la moitié de ma classe qui est des adultes aussi. J'ai toujours eu, une grande affection pour cette clientèle-là. Je trouve que, justement, j'ai l'impression de, très, très humblement, bien sûr, mais d'apporter quelque chose à la personne qui est là parce qu'elle a décidé d'apprendre un enfant. C'est moins clair qui a décidé. Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents? Mais... peut avoir aussi un impact majeur là, dans la vie d'un enfant comme professeur de musique, mais moi, j'aime bien le contact avec les adultes aussi. Là.
Et alors, la personne la plus âgée qui est venue te voir pour étudier le violoncelle pour la première fois?
Ah, la plus âgée... Ben, c'est rare que les gens vont me dire leur âge, là, vraiment. Ils sont précises. Mais j'ai l'intuition que ça va être autour de 75 ans.
OK. Ouais. Ça donne espoir.
Ben vraiment,
ben
en
oui.
fait, il n'y a pas de limite.
On se dit vraiment qu'il n'y a pas d'âge.
Non, vraiment, si c'est quelqu'un qui avait justement toujours rêvé d'apprendre à jouer du violoncelle, je me souviens si cette dame-là avait perdu une amie qui était décédée d'un cancer. Puis là, c'est comme si ça avait réveillé quelque chose en elle. Mais pourquoi j'attends? C'est maintenant, il faut que ça se passe maintenant. Puis là, elle avait décidé de louer un violoncelle puis de prendre des cours. Puis je trouve ça fantastique, vraiment,
qu'il y a un événement tragique de la vie qui emmène à ça.
Oui.
Comme si finalement elle est poussée par son amie, c'est très beau.
Oui, mais en fait, c'est vraiment une prise de conscience. Ouais. Mais pourquoi on attend de réaliser des rêves comme ça qui sont possibles? Là? C'est pas quelque chose d'impossible d'apprendre à jouer du violoncelle. Pourquoi remettre toujours à demain alors qu'on peut le faire maintenant? Donc?
Qu'est-ce que ça t'apporte à toi au quotidien de transmettre?
Ah, en fait, c'est au cœur de ma vie. C'est vraiment. C'est drôle parce que j'en parlais dernièrement avec mon mari qui est aussi musicien. Mais qui n'est pas musicien dans la vie. Parce que je ne joue pas beaucoup depuis la pandémie, hein, avec les concerts, tout ça, ça s'est arrêté. Ça reprend tranquillement, mais vraiment, c'est vraiment pas ma principale activité de jouer en concert. Puis honnêtement, non, parce que je suis tellement nourrie avec tout le reste. Grandir, mais c'est comme une mission, on dirait, que j'ai de transmettre l'amour de la musique, ça va même au-delà du violoncelle. Et surtout le fait de pouvoir le faire à tout âge, de pouvoir apprendre à faire de la musique. C'est tellement enrichissant de faire de la musique. Puis peu importe là, que ce soit le violoncelle ou le violon, le piano, ou même le chant, ou juste aller dans un chœur, ou peu importe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup aux gens. Puis c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Donc c'est quelque chose qui est relativement ben, simple, je le mets vraiment en guillemets, là, mais... au lieu de prendre des médicaments parce qu'on est stressé, par exemple, faire de la musique, c'est vraiment... c'est comme un antidépresseur naturel. Là. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de gens que je connais à se recentrer, avoir un moment très... en pleine conscience, en fait, de ce qui se passe. Oublier tous les petits tracas là, du quotidien pour vraiment se concentrer sur la musique, connecter avec les autres. Cette espèce de communion qu'on a quand on joue avec les autres musiciens aussi, ça fait vraiment un bien fou. Puis peu importe le niveau qu'on a atteint avec notre instrument, c'est pas l'important. C'est vraiment, c'est au-delà de ça. Moi, c'est ça qui me nourrit au quotidien, cette transmission-là qu'on tous, on est capable, puis la musique fait du bien. Mais pour moi, c'est vraiment d'abord et avant tout une rencontre avec l'élève. Puis que ça se passe en ligne, de façon asynchrone, donc la personne qui regarde une vidéo chez elle quand elle veut, ou en direct, ça reste quand même une rencontre. C'est quand même un contact qu'on établit avec la personne. Puis, pour moi, c'est vraiment ce lien-là qui est vraiment important. C'est toujours de penser qu'il y a un être humain là, qui, quelque part, qui m'écoute, puis qui est là pour apprendre à jouer du violoncelle. Puis moi, je suis un peu le guide qui... l'accompagner à travers ça. Puis ensuite, bon, il y a tous les trucs pédagogiques. J'essaie de rendre ça le plus ludique possible, plus imagé possible aussi, avec des trucs, la bonne sensation à avoir ou la bonne image.
La clé anglaise, les abeilles.
Ben, c'est
on
ça.
L'a eu cet après-midi, oui.
Ouais. C'est ça. Peut-être parce que moi-même aussi, j'ai besoin de ça quand j'apprends. Et j'ai beaucoup d'images, en fait, qui me viennent souvent en tête aussi, des liens que je fais comme ça, qui sont un peu farfelus parfois. Mais après 20 ans, je me dis que mes liens sont peut-être pas si farfelus que ça, parce qu'il y a des résultats.
Mais il y a du sens, en fait, et puis on les retient. Ouais. Quand c'est farfelu, on retient aussi.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça donne un petit côté, je sens un peu givré à mon enseignement, peut-être.
Faire qu'un seul bloc, les pièces ne sont pas forcément collées. C'est-à-dire que là, le chevalet, l'âme, le cordier ici, la pique un peu moins parce qu'elle est, on va dire, si elle a un peu de jeu, elle pourrait sortir, s'il n'y a plus de tension, mais normalement, il y a quand même un peu de force qui retient. Et les chevilles, en fait, tout ça, s'il n'y a plus la tension des cordes, il y a tout qui tombe. Et donc, il faut déjà s'assurer pour la stabilité de l'instrument. On ait la tension au maximum tout le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que tout l'instrument est sous tension. On a énormément de tension en permanence entre le scié. Alors, le scié, c'est cette pièce ici, vous voyez, là, à la base de la table. C'est une petite pièce en ébène. L'ébène, c'est un bois qui est plutôt dense et qui va empêcher le cordier de en fait, rentrer dans la table. Parce que là, si on avait autant de tension ici, et c'est la même chose en haut. On a le scier ici qui va non seulement guider les cordes, les mettre en place, définir leur hauteur, mais en même temps, elles permettent aussi de protéger, puisqu'elle est dans l'autre sens par rapport à la touche, de ne pas, on va dire, fendre le bois et se retrouver directement sur la touche. Là, comme il est sous tension, en fait, ça lui permet de rester stable complètement, même sous la contrainte, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer accordé. La personne qui va se dire « bon, je vais préserver mon instrument en détendant les cordes, par exemple », si elle veut jouer tout de suite, elle va s'accorder, elle ne va pas pouvoir être accordée, pas longtemps en tout cas, parce que l'instrument, il va reprendre toute cette tension qu'il a perdue quand on les a détendues, et il va changer très légèrement, de manière infime, mais on va quand même sentir une instabilité dans la sonorité et dans l'accord, juste à cause du... Voilà, c'est comme un arc, on doit le tendre, et là on doit le maintenir en tension pour qu'il puisse jouer et faire son travail.
Luthier, et ma présence durant cet événement est liée à ma connaissance de Jean-François. Ouais, ça fait quelques années maintenant, avec son projet Mille d'or violon. On a été en contact sur internet, parce que lui il est au Québec et moi je suis en France. Grâce à cette passion commune du violon et à cette volonté d'aider les musiciens, qu'ils soient débutants ou avancés. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des débutants, mais bon, c'est toujours intéressant d'aider justement à transmettre mes connaissances à ces musiciens, surtout s'ils débutent, pour qu'ils fassent les bons choix. En général, ils se sentent mal à l'aise, parce que c'est tout un nouvel univers qu'ils découvrent et ils sont en recherche d'un accompagnement. Alors le professeur, c'est vrai qu'il est là pour accompagner et pour apprendre, et moi je suis plutôt là pour le côté technique.
C'est quoi l'origine de ton arrivée à cette profession ?
Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? En fait, c'est toujours un enchaînement d'idées, mais qui se confrontent ensuite à la réalité et qui nous empêchent de laisser tomber. Parce que des idées, on en a plein. Surtout moi, quand j'ai dû me décider, c'est à l'adolescence. J'ai dû faire un choix. En fait, je me suis rendu compte que je mettais énormément d'énergie dans la musique, essayer d'être musicien. Je mettais énormément d'énergie dans la lutherie. Mais l'un interférait toujours avec l'autre. À un moment, il fallait trancher. Je me suis dit, si je veux réussir, si je veux avoir un métier, avoir une vie, il faut que je me concentre sur l'un d'entre eux et que je poursuive ça au maximum. C'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai choisi la lutherie. Et enfin, je pense que c'était un bon choix. En fait, j'ai eu la chance de déjà avoir la curiosité de ce métier, parce que dans ma famille, personne ne faisait ça. Je n'avais pas de connaissances, de personnes qui étaient proches de moi qui faisaient ce métier aussi. Donc j'avais une idée complètement caricaturée de ce que pouvait être le métier de luthier, en me disant, ben voilà, c'est cool, on fait des instruments, ça doit être relax. Mais en fait, en m'intéressant à ça, j'ai rencontré des luthiers. J'ai eu des expériences exécrables avec des mecs qui me disaient « La lutherie, c'est de la merde. Fais pas ça. De toute façon, on gagne pas d'argent. C'est la misère toute la vie. On est déjà trop. Enfin, » voilà, tous les trucs qu'on peut entendre pour bien nous démoraliser. Alors que maintenant, en sachant plus sur les personnes qui m'ont dit ça... C'est un peu les personnes qui tirent bien leur épingle du jeu et que voilà, qu'il s'agit juste de préserver leur part du gâteau en empêchant au maximum les personnes de suivre une voie qui pourrait les mettre sur leur chemin. D'un autre côté, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui n'avaient pas du tout ce discours-là et qui étaient prêtes à transmettre leur expérience, transmettre leur parcours de vie en disant « moi j'ai fait ça ». Si je te conseille, d'après mon expérience, ça serait de prendre ce chemin-là. Si tu veux, je te donne les clés pour suivre ce chemin-là. Et voilà, vas-y. Si tu veux faire ça, il faut y aller à fond et partir sur ça. Et moi, on peut dire que j'avais la chance de ne pas avoir d'autres alternatives. Enfin, disons qu'il n'y avait pas forcément d'autres choses qui m'intéressaient. Il n'y avait pas de bifurcation possible. Donc, bon, allez, je fais ça à fond. J'y vais, je pars, je prends l'avion pour l'Angleterre. Mais en gros, c'est comme un examen d'entrée. Okay. Et puis, on m'a dit, voilà, t'es pris. OK, pas de problème. Reviens l'année prochaine. Je suis revenu, j'ai fait. J'étais dans le monde de l'école, donc j'ai fait un diplôme en 4 ans. Et l'avantage de partir comme ça, c'est que... moi, à l'époque, ce qui m'intéressait de sortir de la France et d'apprendre un métier, c'est que déjà... En se changeant complètement de cadre, on allait apprendre plus qu'un métier. C'est-à-dire que si ça foire, de toute façon, j'aurais appris une autre langue, j'aurais appris une culture, j'aurais enrichi ma vie de tout un tas d'apports. Mais en tout cas, sur ces 4 ans-là, oui, c'est sûr que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément sur moi, sur les autres, et sur mes bons côtés, sur mes mauvais côtés. Et puis... Puis au final, sorti de là, j'avais quelques réponses, mais en fait, une fois qu'on sort du cocon de l'école, c'est vaste. Il y a toutes les possibilités qui sont offertes à nous. On peut tout faire ou rien faire. Là, je dois avouer que c'était quand même un peu plus dur pour savoir, voilà, j'ai des compétences, mais qu'est-ce que j'en fais exactement? Est-ce que je trouve un emploi? Quel emploi va me plaire? Où est-ce que ça va être? Parce que ça pourrait être n'importe où. Mais ce qui est sûr, c'est que trouver un emploi dans ce milieu-là, c'est quand même assez difficile. Il faut être bon, il faut vouloir habiter dans des endroits où on n'a pas forcément envie. Moi, j'avais des postes qui étaient possibles à Londres, par exemple, à Paris ou à Berlin, mais j'en avais eu assez de vivre dans la ville à ce moment-là. En fait, on gagne son salaire pour payer un loyer, et puis... on fait pas grand chose d'autre en fait au final, donc ça m'intéressait pas trop. Je préférais partir plus loin. Je me suis retrouvé à Chypre,
ok,
perdu au milieu des moutons pendant longtemps à faire ça. C'est une expérience aussi, mais ouais, là aussi j'ai rencontré quelqu'un qui était prêt à transmettre, et même si c'était à l'autre bout du monde, justement, je pense que ça renforçait les liens. Et sur cette transmission, c'était pas forcément ce qui était le plus doux.
Ok.
Donc c'était une transmission...
à la dure,
pas...
c'est quoi?
Non, c'est pas forcément à la dure, mais c'était quand même un gros électrochoc en passant de ses propres convictions à découvrir un peu une forte personnalité avec une façon de faire qui... pas qui était très bornée, mais qui était très forte. Donc quand on se confronte à ça, Forcément, ça peut choquer. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont pris ce même chemin et qui ont perdu des dents. Non, pas littéralement, mais je veux dire qui ont pas supporté en fait le choc, parce que c'est quand même assez dur, assez droit. Il faut une rigueur, il faut une patience, et il faut se plier aux exigences. Et c'est peut-être ça qui est dur aussi, c'est de se forger cette propre exigence et pouvoir repousser à chaque fois ce qu'on attend de soi et des autres.
Est-ce que ça t'a donné de la force ?
Disons que, après m'avoir un peu détruit, en disant oh, qu'est-ce que je fais, je ne sais rien faire, enfin, tous les doutes qui pouvaient m'accabler, en fait, j'ai eu la force de continuer et de faire du mieux possible malgré toutes les remarques ou tous les remarques désobligeantes qui peuvent pousser quelqu'un qui est un peu trop d'ego à pouvoir abandonner, par exemple. Et on va dire, après, j'ai réussi à gagner cette confiance en faisant preuve de plus d'exigence envers moi-même, envers mon travail, et repousser un peu plus ça. Et à partir du moment où j'ai été accepté et que le maître a dit « Ah, finalement, si c'était mon travail, j'aurais été content. » Et ben, alors, je dis, ben voilà, j'ai passé une étape, et au final, c'est là aussi où on crée ce lien. Donc, je dirais que la transmission, ça va dans un sens, c'est un échange. Et avec aujourd'hui, je peux dire, bon, ça fait 15 ans que j'ai commencé ce métier, en comptant toutes les années d'apprentissage. Aujourd'hui, la transmission, elle peut être inversée.
Tu transmets au cœur de ton atelier à des apprentis ?
En fait, je transmets à des apprentis, aux personnes avec qui je travaille dans mon atelier, puisqu'on est 5 au total aujourd'hui. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de transmettre ce que j'ai pu construire au fil des années aux personnes qui m'ont transmis dans le passé, donc qui m'ont beaucoup donné. Et maintenant, j'essaye de leur rendre l'appareil. C'est voilà, en leur apportant des choses que moi, j'ai pu développer dans mon coin.
Donc là, on est autour de l'élève dépasse le maître, et tu arrives à leur donner des connaissances plus précises, ou ça va être de quel ordre ?
Ça peut être de n'importe quel ordre, en fait. Et c'est juste que des années après, en les revoyant, ils me disent « Ah, je vois que tu as parcouru ce chemin. » Et quand ils me disent « C'est incroyable ce que tu as pu faire aujourd'hui et là où tu te trouves. » Première fois que je t'ai rencontré, je ne sais pas imaginer ça. Et ben, au final, ça fait quelque chose émotionnellement. Parce que on parle de l'élève qui dépasse le maître. Je ne sais pas si je les ai dépassés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est plus d'égal à égal. On sait que, en fait, on s'échange de cette manière-là. Et ça fait un lien qui est très privilégié. Voilà.
Je ne sais pas comment
le décrire, mais on est plus au même niveau, en fait. Mmh. Voilà. Alors, si on peut reparler des apprentis, ça, j'ai essayé. C'était pas, en fait, avec les personnes à qui j'ai essayé de transmettre, il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu des mauvaises expériences. J'ai eu des très bonnes expériences aussi. Il y a aussi des stagiaires qui viennent dans le cadre de soit avant de se lancer dans les études de lutherie ou soit pendant. Là aussi, il y a des expériences qui sont ni bonnes ni mauvaises. Il y en a qui sont très bonnes et puis il y en a qui sont un peu plus amères, je dirais.
D'un côté comme de l'autre, tu penses ?
Je sais pas, je pense que ça peut être des deux côtés aussi. Mais bon, disons qu'il n'y a rien qui est parfait. Mmh. Et j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit, dans toutes les expériences que j'ai eues en essayant de transmettre, ça s'est bien passé ou mal passé. C'était toujours aléatoire, et ce qu'on pensait qu'il allait bien se passer va faire peut-être complètement capoter au bout de quelques jours. Et puis inversement, quoi, des personnes qu'on n'attendait pas sont là et produisent des choses incroyables bien des années plus tard. Donc c'est assez volatile. Moi, je mets 80% du son dans les mains du musicien ou de la musicienne, parce que on sait très bien que quand Erika joue n'importe lequel des instruments qui sont présentés là, ils vont pas sonner pareil que quand n'importe qui d'autre va les jouer. Et elle va donner, en fait, à chaque fois, on reconnaît son style de jeu, sa façon de faire sonner les instruments. Et au final, bien qu'ils aient leurs individualités, on reconnaît toujours la sienne qui se contrôle de l'instrument. Le luthier, peu importe lequel il est, quelle place il lui reste quand le musicien s'empare de l'instrument, s'empare de son œuvre ou de l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est un peu difficile à dire. Il y a tout un tas de choses qu'elle ne pourrait pas faire si elle n'a pas le bon instrument et le bon réglage qui va avec. Physiquement, on est toujours limité par certaines données qui sont sur l'instrument. Je sais, parce que je connais très bien ces instruments, notamment un qu'elle a joué pendant bien des années, qu'elle a fait la plupart de son parcours professionnel avec. C'est un instrument qui est injouable, très dur à contrôler. Et malgré ça, en fait, elle a fait toute sa carrière dessus. Et personne ne lui a dit « Ah, mais ce serait plus facile avec un autre instrument. » Et donc, elle a cru qu'il fallait souffrir pour jouer et que c'était normal.
Tu peux nous en parler, Erika, et peut-être te présenter en quelques mots.
Je vais parler en anglais et Guillaume va traduire. Donc, oui, ça fait plus que 25 ans que j'ai joué du violon dans ma vie. Et en fait, pendant 20 ans, j'ai un instrument très bon, en fait, en violon français. J'aime bien le son et la qualité et la sonorité, toutes les choses. Mais it made me really hurt.
Ça l'a vraiment blessé.
Oui, physiquement.
Physiquement, oui. Donc, j'ai fait beaucoup de souffre.
Elle a beaucoup souffert.
Oui. Donc, en fait, j'ai encore quelques symptômes quand je jouais beaucoup aussi. Donc, je pense que c'est à cause de mon violon.
En fait, c'est un violon qui avait une très bonne sonorité. C'est ça qui l'a attiré. Parce qu'elle avait beaucoup de besoins, des grandes capacités musicales, donc il fallait un instrument qui puisse répondre à ça. Par contre, il lui a été vendu, voilà, pour le son, mais c'est un instrument qui, structurellement, était impropre au jeu. Et ça, personne ne l'a dit, que ce soit ses professeurs, le vendeur, bien sûr, hein, il fallait pas lui dire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit par les professeurs aux étudiants. Et c'est tout ce qui concerne le physique. Donc on peut se retrouver avec des instruments qui nous font souffrir, mais pas que des instruments, hein, des postures, tout ce qu'on veut, qui nous font souffrir. Et on trouve que c'est normal parce qu'il faut souffrir, no pain, no gain, etc. Et au final, on se retrouve avec des troubles musculo-squelettiques parce qu'on passe des heures et des heures cassés. On est cassé à 25 ans, à 30 ans. Ça devient tellement douloureux de jouer qu'en fait, physiquement, on peut plus suivre.
Je joue doucement, plus doucement maintenant. Donc oui, ça marche pour maintenant. Mais c'est vrai, je ne peux pas arrêter complètement. Jouer du violon, c'est la plus importante chose dans ma vie. Oui, donc je dois vivre avec ça.
La souffrance, elle a fait partie de la manière dont on t'a enseigné le violon.
En fait, les sociétés, c'est très dur. It was very competitive.
La façon d'apprendre était de toute façon très compétitive. Et il faut être les plus forts, il faut être les plus rapides, il faut être les meilleurs, les plus talentueux. Et malgré son parcours, en fait, la souffrance n'est pas acceptée.
Est-ce que ça revient avec ce que tu disais autour des élites tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un lien très fort avec ça?
Il y a les élites, mais aussi, il n'y a qu'une personne au sommet. Il faut être que le numéro 1, le numéro 2 n'existe pas. Et ce qui fait que le numéro, on peut trouver facilement meilleur que soi, plus endurant, performant, plus ci, plus ça. Et donc au final, si on a le moindre handicap, et ça peut être l'instrument le handicap, hein, c'est-à-dire qu'on a un outil qui nous demande beaucoup plus de travail que n'importe qui d'autre, et bien au final, on doit travailler encore plus, ce qui nous handicape encore plus, et c'est un peu un cercle vicieux.
Tu enseignes à ton tour, tu es professeur de violon aussi?
Oui.
Comment est-ce que, en ayant vécu tout ça, ton chemin, ton parcours avec le violon, ce serait quoi les ingrédients principaux de ta méthode d'enseignement?
Mostly, I want my students to enjoy learning and like them. And then also, I don't want them to get hurt while they play. So I always actually make a pause and then actually teach them how to make themselves feel better physically. I really try to make them like the music. It's not, they're doing it by force, but they have to feel like they do it because they like it.
Donc en fait, pour répéter ce qu'elle a dit, quand elle enseigne maintenant, c'est plutôt par rapport à faire apprécier aux étudiants la musique elle-même, plutôt que d'être forcé, et aussi d'arriver à leur faire comprendre tout ce qui est autour de l'instrument, les étirements, comment se relaxer, tout ce qui est en rapport avec la méditation et la préparation, on va dire, avant ou après de jouer, qu'elle a beaucoup étudié, donc c'est sans doute pas la même méthode, ce dont elle a eu droit en fait.
Because I got through all those things, so I don't want my next generation to go. I don't want them to go through the same path. I want them to go somewhere better.
Voilà, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle ne veut pas que la prochaine génération d'étudiants passe par le même chemin et vive la même chose. Bon, c'est aussi pour ça que quand elle a décidé d'arrêter sa carrière. Bon, ça peut être des souffrances, mais aussi à cause d'autres raisons. Elle a décidé en fait de se lancer vers cet enseignement. Donc, avant de quitter, elle a postulé à Harvard pour faire justement cette. On a travaillé pour l'éducation et les neurosciences. Et donc, ouvrir son champ d'action, dire plutôt que juste la pratique musicale, aller vraiment sur l'enseignement et comment changer la manière d'enseigner et surtout la manière d'optimiser l'apprentissage grâce à d'autres techniques que simplement le travail acharné et la répétition, en fait, pour être plus efficace sans forcément se faire souffrir.
Mais il y a deux autres secrets de longévité pour le violoncelle, et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. D'un côté, on a un barrage. Un barrage, c'est quoi? C'est une pièce de bois qui est collée à l'intérieur du violoncelle, du côté des graves. On l'appelle, en anglais c'est bass bar, donc bass grave, une barre. En français c'est la barre d'harmonie, donc on sait que c'est une barre, mais d'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On n'est pas sûr.
Qui est un bois aussi?
C'est du bois, c'est le même bois que la table. Et en fait, ça vient, c'est un peu comme une charpente, on a une poutre qui passe en travers et qui vient en fait soulever, renforcer le bois au niveau d'un des pieds du chevalet. Et donc cette barre là, elle donne assez de force pour compenser la faible épaisseur de la voûte et voilà, en fait contrer toute cette tension qui est du côté des graves. De l'autre côté, on n'a pas une poutre, on a une colonne qui va de la table jusqu'au fond, c'est ce qu'on appelle l'âme. Le côté intéressant de l'âme, c'est qu'elle est amovible. C'est là aussi, si on enlève la tension, il y a de fortes chances, on le secoue un peu, comme c'est très flexible, on peut pousser les éclisses, elle va aussi tomber, elle va rouler à l'intérieur. Alors ça, si vous entendez l'âme qui roule dedans, il faut se méfier. C'est pas forcément grave. Hein.
Mais ça ne fait pas tomber tes cordes, non?
En fait, l'âme
c'est
va pas
c'est quand on enlève toutes tes cordes, mettons, là, l'âme va tomber. Assurément.
Alors, elle n'est pas obligée de tomber parce qu'elle est quand même coincée.
Ah, okay.
Mais si voilà, il y a par exemple des variations dans l'hygrométrie et qu'on laisse le violoncelle comme ça, sans les cordes, sans la tension des cordes, comme il n'y a plus cette pression dessus, ça peut légèrement s'écarter. On peut aussi avoir des petits chocs de temps en temps et l'âme peut tomber.
J'imagine que tu côtoies des musiciens professionnels d'un très haut niveau. Est-ce que ça t'amène, toi, dans ton métier, à redoubler d'exigences?
En fait, bon, si on parle des exigences métier, ça c'est quelque chose de très dur. Parce que c'est un travail quotidien qui va nécessiter énormément d'efforts, de remise en question. Et alors personnellement, je me sens souvent mal à l'aise avec cette acquisition du savoir, de la connaissance et des gestes, parce que je me sens jamais. Enfin, en fait, plus j'en apprends, plus j'ai l'impression que je suis loin du but, et c'est assez abyssal comme sensation et c'est assez malaisant en fait, parce qu'on n'arrive pas à voir le bout. Et d'un autre côté, alors c'est pas forcément en rapport, mais c'est ce que la question m'inspirait aussi. Justement par rapport à ces barrières au niveau du partage et de la transmission qui peuvent être créées par certaines personnes. Alors il faut dire que la lutherie, peut-être la musique classique de manière générale, et la lutherie a une mauvaise tendance à être un peu snob, voire même très snob et élitiste. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me rend malade. C'est-à-dire, ça me dégoûte énormément qu'on mette à l'écart des gens qui ne sont pas initiés, par exemple, et qui, par ignorance, on va dire le grand public, peut être laissé, par exemple, de côté, parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de rejoindre cette élite intellectuelle et que sais-je, en fait, quelle sorte d'élite. Mais j'ai vraiment rencontré assez souvent ce genre de comportement de la part de musiciens, de même de personnes qui sont un peu en parenté avec ce milieu, et aussi de la part de luthiers. Ça me rend assez triste, en fait, qu'il y ait ce genre de comportement, et j'ai toujours essayé de me battre contre ça.
Comment tu fais pour proposer une autre manière d'aborder l'accès à l'instrument ?
Pour l'accès, bon, y a des choses qui ont été... Aujourd'hui, le violon est beaucoup plus accessible à tout le monde, parce que théoriquement, les prix sont plus bas que jamais pour acquérir des instruments. C'est peut-être pas les meilleurs instruments, mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut avoir accès à la culture, on peut l'avoir. C'est des choses qui sont, voilà, par exemple, 1000 d'or, c'est une solution qui existe pour apprendre le violon, peu importe où on est sur la planète, peu importe les conditions, peu importe son temps de disponibilité, donc c'est une des solutions. Le reste, qui est aussi amené par tout ce qui est Internet et le reste, c'est on a accès à de l'information. Si quelqu'un veut bien nous la donner quelque part, en fait, elle peut être disponible. Il y a plein de gens qui font ça dans tout un tas de langues. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi en faisant mon blog, en écrivant beaucoup à propos de ça. Mais en tout cas, c'est ce que je trouve important, c'est de pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Et je sais que parfois, ça m'a été reproché par d'autres collègues ou des professionnels qui disaient si on casse le mystère sur ce métier, les gens, ils vont comprendre. Mais je vois pas où est le mal.
Ça veut dire quoi ? Comprendre le fonctionnement même du métier ?
En fait, c'est plutôt qu'on perd l'aura magique, on perd le côté mystérieux qui entoure quelque chose d'inaccessible, en fait. C'est aller justement au contraire de quelque chose de productif. Si on fait connaître notre métier, on développe ce métier. C'est pas en gardant, en fait, en mettant chasse gardée sur le métier, donc empêcher les gens d'apprendre. Si on empêche les gens d'apprendre à faire ce métier, en fait, il y aura beaucoup moins de propositions qui sont faites, il y aura beaucoup moins d'énergie dans ce qui est fait. Et au final, un jour, ça va s'écrouler. Donc en parlant, c'est la seule chose qui permet de maintenir, en fait, une compréhension du grand public, et aussi une attention de tout ça.
Moi, ce que je veux vous dire, surtout lorsque vous avez des passages avec des croches, c'est très facile quand on a des croches de premièrement se dire « Mon Dieu, c'est des croches! » On relaxe, on va asseoir nos dents. 1 et 2 et 3 et 4 et on les fait, tu sais, on va justement asseoir confortablement. Il faut essayer de ne pas s'emporter. Dès le moment qu'on fait des croches, on a toujours tendance à s'emporter un peu. Par exemple, on va faire... Puis là, on dirait que c'est comme un feu roulant, ça déboule. Donc voilà, on essaie de rester sur le même tempo. Quand vous faites les croches, vous êtes capable de regarder en avant, regarder de temps en temps, voir la baguette du point de l'œil. Ça marche? On recommence exactement la même chose. On essaie ça.
C'est terminé. Les émotions sont vraiment grandes. Je dois dire que Il y a quelque chose de particulier dans ce groupe-là parce que mon école de musique en ligne a commencé quelque chose comme 2 ans avant la pandémie. Au moment de la pandémie, donc on était déjà prêt à avoir des gens là, qui s'inscrivent à mon école, tout ça. Et on a lancé en même temps un groupe Facebook violoniste débutant. Donc ça faisait déjà quelque chose comme 6 mois que ça roulait avant que la pandémie arrive. Et on était au bon endroit au bon moment. Et là, soudainement, on est passé de 50 membres à 6000 membres. Et pendant toute cette période-là, les gens se sont rassemblés, ont parlé, ont créé des amitiés. C'est devenu une belle communauté vivante. Et aujourd'hui, en fait, dans les 3 derniers jours, c'était notre grand rassemblement suite à ces 2 années-là où on a créé ces amitiés-là. Mais c'est très étrange parce qu'on avait l'impression de rencontrer des amis qu'on n'a jamais vus de notre vie. Le sentiment était vraiment, vraiment cool. J'ai apprécié tous les moments. Puis je pense que les gens ont senti que c'était pas seulement de la musique, c'était un beau rassemblement, une belle communauté. Mais tu sais, t'as dit un mot tantôt qui est très important pour moi. Quand t'as parlé d'un instrument qui vibre, qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer, et ça, vraiment, c'est quelque chose que tous et chacun devrait pouvoir vivre. Ce sentiment-là de faire partie d'un tout, faire partie d'une harmonie, en quelque sorte. Puis c'est pour moi, ça, c'est vraiment important. Et on n'a pas besoin de la perfection. Je trouve qu'on met trop d'emphase sur la perfection. Moi, c'est pas la perfection qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive, qu'on vibre tous ensemble, puis qu'on ait ce plaisir-là. Puis, donc, je suis content si tu l'as ressenti comme ça parce que c'est vraiment ça qui était mon objectif. Des fois, on se demande si on va y atteindre, mais je vois des beaux retours comme le tien, puis je suis très content de ça. Puis, je suis content que tu aies vécu un beau moment. Ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. J'ai eu beaucoup de professeurs qui ont été très marquants pour moi. Mon premier professeur de tout, elle s'appelait Claire Massé, elle est décédée maintenant. Et Claire, c'était une maman, OK? Pour un jeune enfant qui commence à 4 ans, d'avoir une personne qui te regarde avec les yeux amoureux d'une maman, si vous voulez, qui te dit « Oh, mais t'es donc bien bon, bravo! » Puis replace ton archet comme ça, puis rejoue, essaie encore. Puis là, de voir qu'elle était contente, qu'elle était fière de nous, j'ai appris dès un très jeune âge que quand on est positif, quand on est gentil, quand on est bienveillant et quand on donne cette transmission-là via une certaine forme d'amour, si tu veux, les gens, ça leur donne des ailes. Les gens, ça les propulse à vouloir jouer davantage, à devenir curieux, à vouloir pratiquer davantage. Puis pour moi, tu vois, c'est comme une roue qui tourne. Puis plus qu'on transmet cet enthousiasme-là, plus qu'on est bienveillant envers les gens, puis plus qu'ils vivent quelque chose de bien, une expérience positive, et là, ils vont se découvrir un talent. Parce que le talent, pour moi, ça se cultive. C'est pas quelque chose qui vient d'avance. Bon, on peut avoir des prédispositions, c'est vrai, mais ça se cultive, le talent. Et de pouvoir en faisant vivre des belles expériences comme ça, de pouvoir cultiver cette roue qui tourne justement, bien ça, je trouve que c'est important. Puis tu vois, ce premier professeur-là m'a enseigné ça tout simplement par sa bonhomie et sa gentillesse. J'ai aussi un professeur au secondaire qui s'appelle Marc-André Thibault, professeur d'harmonie, qui nous a fait vivre un voyage en France, en Belgique, qui était vraiment, tu sais, le genre de professeur que t'aimes avoir, qui sait transmettre sa passion, très droit aussi, une personne qui est aimable, qui est gentille, tout ça. Puis je pense que toi, des gens comme ça qui viennent nous influencer et qui nous montrent qu'à travers la musique, on peut apprendre des belles valeurs, puis on peut se développer humainement parlant, ça fait une différence. Puis le troisième professeur, c'est Denise Sergent, qui était un professeur plus rigoureux, OK? Mais elle m'a enseigné, si vous voulez, la rigueur, le fait de travailler beaucoup, puis le fait d'achever le plus possible son art. Maintenant, toujours sympathique, jamais été déplacée. Elle exigeait beaucoup, mais elle était justement positive aussi dans son approche. Donc, tu vois, 3 professeurs comme ça. Et si je peux me permettre, des parents exceptionnels qui ont toujours voulu faire en sorte que je développe une confiance en moi. Et ça, tu vois, pour moi, ça fait partie de la transmission de l'apprentissage. Ça fait partie de ce qui est essentiel pour que l'enseignement de la musique devienne un enseignement sur la vie aussi. Ben, en fait, c'est mon père qui est amoureux du violon. Okay? Il a toujours aimé ça. Mon père est organiste et pianiste. Lui, il faisait de la musique pop, okay? Mais il a toujours aimé le son du violon. Puis essentiellement, ce que mon père voulait, c'est que je vive l'expérience de la musique. Lui, c'est un passionné de musique. Okay? Il joue pour lui, il a du plaisir, ça vient le combler. Il a voulu essayer d'aller en musique, mais c'était pas pour lui. Il savait pas bien lire, il avait trop appris par oreille. Bon, c'est, finalement, il a décidé de faire autre chose de sa vie, mais il s'est dit, je veux donner à mon enfant la chance de vivre ça, puis de... qu'il en fasse que peu importe, OK? Mais l'important, c'est qu'il puisse avoir vivre ce que je n'ai pas eu dès le départ, donc avoir une formation musicale. Et donc, c'est lui-même qui m'a mis un violon dans les bras. Qu'est-ce que tu sais, en l'espace d'une journée, je ne savais pas c'est quoi un violon. Et là, soudainement, j'étais dans un sous-sol d'une école avec Claire Massé qui me disait, bon, ben c'est comme ça qu'on le tient. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, mais j'avais un violon et voilà.
Et alors là, par rapport à ce qu'on vient de vivre ce week-end, le fait de tout à coup te mettre avec la baguette en main, et oui. Non pas le violon, qu'est-ce oui. que ça t'a fait?
Ben, écoute, moi, je ne suis pas un chef d'orchestre dans la vie de tous les jours. Je suis professeur, je me spécialise vraiment dans la pédagogie, dans la transmission, je suis très précis, j'essaie de connaître la meilleure façon de transmettre mes connaissances, tout ça. Mais non, je ne suis pas chef d'orchestre. Mais je me suis énormément préparé pour en fin de semaine, pour être certain de savoir quoi faire travailler, etc. Puis après ça, d'avoir la baguette, c'est une autre façon de transmettre. On transmet, mais à travers justement nos mouvements, à travers le langage non-verbal, à travers notre expression faciale, à travers les regards aux musiciens. Donc, il y a beaucoup de façons de transmettre qui sont différentes. Il y a beaucoup de façons d'influencer les gens. Puis, tu vois, c'est une autre façon de communiquer, puis c'est une autre façon de faire vivre justement une expérience d'apprentissage.
Alors, un mot sur ce que ça t'a apporté?
Ah, ce que ça m'a apporté, oui. Ben, écoute, moi, je te dirais qu'à chaque fois que je vis ces moments-là où j'agis comme chef d'orchestre, il y a un certain point où j'entends la musique, mais j'ai l'impression qu'elle fait partie de moi et qu'elle fait partie des gens qui sont aussi de l'orchestre. Bon, ça peut sembler étrange à dire comme ça, surtout si on n'a jamais fait de musique. Mais dès le moment qu'on a fait de la musique et qu'on a un sentiment de groupe qui arrive, il y a ces moments magiques-là, ces moments d'étincelles qui arrivent où tu as l'impression qu'on fait un.
C'est très organique, c'est ce que j'allais te dire.
Oui.
En t'écoutant, je pensais vraiment à quelque chose issu de la nature, quoi, qui respire. Quoi.
Oui, exact, exact. Mais tu vois, c'est ce que ça m'amène. Puis ça, pour moi, ça vient, c'est très serein, c'est très bénéfique. Puis en même temps, on dirait qu'on exprime nos sentiments. Puis exemple, on a fait un tango tantôt. Puis à l'intérieur du tango, il y avait des moments qui étaient un peu plus intenses, qui étaient plus durs aussi. Mais à ce moment-là, c'est bon parce qu'on les exprime aussi. Puis en quelque part, c'est thérapeutique. Donc, mais c'est surtout ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est le sentiment de groupe, puis l'impression qu'on a fait quelque chose de beau ensemble, puis dont on est fier.
Est-il plus facile d'accorder un orchestre que de s'accorder entre êtres humains? Quelles empreintes laissent les professeurs tyranniques chez leurs élèves? D'où provient l'autoritarisme ou, à l'inverse, la douceur d'enseigner? Emel Terracine, un podcast à retrouver sur plumefm.net.